FM 93, au cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93, Québec. Le FM 93 présente Deux hommes en ondes. Avec Paul-Raphaël Charon et Jonathan Bernard. Lundi au vendredi, 11h. Deux hommes en ondes commence maintenant.
Attendez-vous, est-ce que... Voilà, je m'entends. J'ai vu la détresse dans les yeux de Benjamin. Il a vu la détresse dans les miens.
Et moi, je te regardais aussi un peu avec un regard de détresse.
Bon,
je me
disais,
on n'aura pas de show aujourd'hui.
Arrête.
Qu'est-ce que tu veux?
Tu t'es assis confortablement sur ta chaise. T'as fait...
Organise-toi. Patine.
Bonjour tout le monde. 12 décembre 2019. C'est un plaisir de vous retrouver pour Deux Hommes en Onde. Jonathan Bernard, bonjour.
Salutations.
On est avec vous jusqu'à 14h. Et ça peut pas être une triste journée aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce qu'il fait un temps resplendissant. Bon, il fait moins 400 dehors, mais ça, c'est des choses qui arrivent.
Lâche-moi le moins 400, là.
Mais il fait un beau gros soleil radieux.
T'as reparlé tantôt.
François Thérien, lors de ses bulletins météo tantôt, là, il va se surpasser, je le sens. Mais l'autre raison qui fait que tu peux pas passer une mauvaise journée aujourd'hui, c'est parce qu'hier, t'as passé ce genre de soirée-là devant ta télé.
Et la première étoile de feu, sir, Caden Primo!
Hey, c'était-tu pas fantastique? As-tu regardé le Canadien? As-tu regardé Canadien hier?
Pas en tout.
Ah, Joe, mais t'as tout raté. L'histoire était en train de s'écrire. Deuxième match dans la Ligue nationale pour le jeune Caden Primo. Fils de Keith. Keith Primo. Première victoire. Première étoile du match. Quand j'ai vu première étoile Caden Primo, je me suis dit, ah, son fin. Sont assez fins. Ils ont donné la première étoile. Là. Belle job. Je pense que c'est les journalistes qui votent pour ça. En tout cas. Mais belle job. Belle job parce que ça se termine. Écoute, le Canadien qui mène 2-0. Un deuxième match en deux soirs. Ils se font remonter 2-2 en troisième période. Là, tu te dis, ah non! Le spectre de la séquence de 8-9 défaites consécutives là, réapparaît. Bang! On va gagner ce match-là en prolongation. Caden Primo, première étoile. Ça sent la coupe!
Aïe! Lâche-moi avec la coupe, là.
Je sais que tout le monde me trouve ridicule quand je fais ça, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me rend heureux quand le Canadien gagne. Et là, 4 victoires en 5 matchs, quelque chose comme ça, il va falloir commencer à réinviter Martin McGuire pour qu'il vienne nous dire oh, « Oui, hey, ça va bien, là, yes. »
C'est là que je me rends compte que ton bonheur ne tient pas à grand-chose, mais bon.
Ah non, moi, j'ai le bonheur facile. Suffit qu'il fasse soleil, Canadien gagne. Moi, il n'y a rien qui peut m'affecter. Fait que voilà, ça c'est dit. J'étais bien triste d'apprendre que le jeune Ryan Poehling a été renvoyé dans la Ligue américaine. Il a joué juste un match. Il était très bon, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Un jour, peut-être, j'animerai une tribune téléphonique de sport. Et à ce moment-là, on pourra se parler de Caden Primo et de Ryan Poehling pendant des heures.
Correct.
Mais comme c'est une émission d'affaires publiques... Je
m'appellerai pas.
Ah, oh, c'est tellement blessant, ton commentaire.
Mais non, mais regarde, excuse-moi, là, parler... Moi, je suis pas un fan de... J'aime le hockey, mais je suis pas un grand fan du Canadien. On va le dire comme ça.
Ils disent tout ça. Tous les gens qui haïssent le Canadien, ils disent ça. Tous les gens qui haïssent le Canadien, ils disent « Non, non, moi, je suis un fan de hockey,
je ne déteste pas... » Je ne déteste pas le Canadien.
Mais t'as une face de mépris quand tu dis
non,
ça.
Non, non, mais...
Oh, Yark, je ne déteste pas Yark, les mauvais Canadiens, Burk.
Non, 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 c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, mais j'aime ça écouter le hockey. J'aime ça regarder le hockey.
Ah, tu fais-tu les deux en même temps des fois? Regarder
ah,
et
non,
écouter.
Mais fut une époque, je sais pas si tu te souviens, l'année qu'il y avait eu la grève à Radio-Canada, à l'époque où les matchs étaient encore présentés à Radio-Canada, et il y avait eu la grève. J'adorais le fait de pouvoir écouter la game, même s'il y avait un petit délai entre ce que je voyais et ce que j'entendais. J'avais adoré parce que je préfère de loin Martin McGuire comme analyste.
Rien contre messieurs Hood et Denis, que j'aime beaucoup.
Oui.
Mais si je pouvais écouter le hockey avec aucun délai, mettre la radio pour voir Martin McGuire et Danny Dubé en même temps que l'image, là, mon gars, je serais de bonne humeur même quand il fait gris. Ça te donne une idée. Alors, je lirai pas tous les commentaires qui rentrent par texto parce que les gens me ridiculisent. Mais savez-vous quoi? Vous avez raison. Dans un pays libre, vous avez le droit de m'envoyer des insultes si vous, si vous
allez,
voulez.
Allez-y, moi j'aime ça les lire. Exact. Go, go, go!
Puis moi, de mon côté du micro, j'ai le droit de dire ça sent la coupe, même si personne n'y croit, bien évidemment, même moi. Comme je disais, comme c'est une émission d'affaires publiques, Joe, ouais. Je te laisse le choix. Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par... la loi 21, la Cour d'appel va rendre sa décision aujourd'hui ou le triple meurtre à Pointe-aux-Trembles? Parce qu'il y a des dénouements aussi dans l'histoire du triple meurtre qu'on a abordé hier. Là.
Et regarde, vas-y donc avec la décision sur... les deux, ça touche.
On va faire les deux, de toute façon.
Ouais. Et il y a aussi l'espion des vedettes dont il va falloir que l'on parle.
Ah ben vas-y, avec l'espion des vedettes.
Ouais, parce que l'espion des vedettes, sachez qu'il y a comparution ou il y aura comparution dans les prochains instants d'un individu de Québec. Il s'agit de Pascal Desgagnés, donc qui a été arrêté par le service de police de Longueuil et qui aurait espionné des dizaines de personnalités à partir de leur cellulaire. Là-dessus, il y a des artistes. On a entendu notamment parler de Véronique Cloutier, des joueurs du Canadien de Montréal.
J'ai même lu Brandon Gallagher quelque part.
Oui, effectivement. Et il y a même des personnalités américaines. Donc là, ça enlève l'idée de quelqu'un qui se servait ou qui avait des informations à partir de... un fournisseur de téléphonie X ou Y.
Ah, OK. Bon, oui, je comprends.
Si, par exemple, c'était tous des gens qui étaient abonnés, je sais pas, Vidéotron ou Bell, c'est pas le cas, là, visiblement, ouais. Parce que on parle également de personnalités américaines dans le lot. Et on parle de dizaines de personnes sur plusieurs années, ce serait même sur 6 ans. Fait que c'est pas d'hier.
Et là, il y a en passant, là, Benjamin me dit à l'oreille que le Canadien, ce matin, aurait nié qu'il y a des joueurs qui avaient été...
Espionné.
Fait que ils l'ont nié, je le dis. J'ai lu dans d'autres médias qu'il y avait des joueurs qui l'avaient été, mais bref, on ne saura pas le fin mot de ça. Mais de toute façon, c'est pas tellement ça qui est important. Ça faisait 6 ans.
Ouais.
L'autre affaire aussi qu'on a appris, je sais pas si c'est fondé, mais en tout cas, j'ai lu ça aussi dans les médias ce matin, dans les journaux. C'était un ancien employé de Desjardins!
Il aurait travaillé là, mais là encore là, je vous le dis, ça m'étonnerait que ce soit parce que c'était tous des gens qui étaient membres de Desjardins qu'il a réussi à avoir accès à leur téléphone, parce que s'il y a des personnalités américaines, m'étonnerait bien gros que ces personnalités-là soient des membres de Desjardins, à moins que...
Desjardins Bank of Florida, là, ça se pourrait.
Ouais.
Non, mais c'est on est dans les on jase, on est dans les théories un peu complotistes, là, ou en tout cas.
Et là, il va y avoir une flopée de chefs d'accusation qui seront portés à l'égard de cet individu. Donc, je vous rappelle Pascal Desgagnés, ce résident de Québec, parmi les chefs d'accusation. Accusation de vol d'identité, fraude à l'identité, méfait à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'ordinateur et utilisation frauduleuse de mots de passe. Donc là, comment il a réussi à obtenir les mots de passe? Est-ce que ce sont tous des personnalités qui avaient le même type de téléphone? Est-ce que le gars a réussi à exploiter une faille d'un système d'exploitation, que ce soit iOS dans le code d'Apple ou Android pour les autres appareils? Peut-être.
Puis là, il y a tout le temps la théorie, la défense du gars de dire « Ah, mais c'était juste par curiosité qu'il plane. » Mais il y a deux choses. D'abord, moi, la question que je me pose depuis le début de cette patente-là, c'est « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Qu'est-ce que tu fais, là? Il n'y a pas suffisamment d'informations pour que ce soit des questions financières, du genre aller jouer dans les comptes en banque, ces trucs-là.
Non.
C'est vrai que ça, cette théorie-là, on peut presque l'écarter. Si on se met à jouer aux enquêteurs, c'est ça qu'on fait, là. Mais on peut presque écarter ça.
Là, moi, j'avais... Veux-tu faire chanter ces personnalités-là en disant, voilà. Regardez, j'ai des photos de vous dans des situations compromettantes?
Moi, c'est la principale théorie à laquelle j'ai pensé. Faire chanter, menacer de faire couler des histoires d'un média. Puis ça, avant même de savoir qu'il y avait des personnalités américaines dans l'eau, moi, quand j'ai entendu Canadien, bon, eux autres, ils nient que c'est arrivé, mais quand j'ai dit, quand on pouvait dire qu'il y aurait des joueurs de hockey du Canadien, il me dit, c'est tellement une organisation... qui est opaque au niveau des communications, là, on dira ce qu'on voudra, là.
Ouais.
Que là, imagine. Mais opaque sur de toute façon des dossiers qui nous concernent pas, tu sais. Mais imagine les unes des journaux si t'apprends que Gallagher a une aventure avec la femme de tel autre joueur. Tu sais, je te dis des affaires, là. C'est vraiment juste des théories, mais fais juste t'imaginer s'il y a une histoire comme ça qui sort. Puis dans le fond, ça s'applique aussi à Véronique Cloutier puis à Louis Morissette. Puis imagine, mm-hmm. on apprend que Véronique Cloutier a un amant. C'est parce, là, c'est l'éclipse médiatique, mon gars. Ça ne nous concerne en rien et c'est pas d'intérêt public. Mais...
Et qu'on vedette!
On se connaît, éclipse médiatique, mon gars. Tu sais, ça peut-tu être ça, là? Le gars, son intention, ça pouvait-tu être justement de faire chanter des personnalités pour qu'il donne de l'argent, pour qu'il évite de sortir certaines infos? Ou c'est vraiment juste...
Un voyeur.
Plaider, curiosité, mais pendant 6 ans?
Oui, mais du monde tordu, Paul. Il y en a du monde tordu. Puis plus que tu penses, puis il s'agit de passer quelques jours au palais de justice et tu vas voir à quel point c'est un phénomène qui est assez commun. C'est pas tout le monde qui est nécessairement mal intentionné dans le fait de vouloir avoir de l'argent. Il y a des gens qui le font justement, juste par un plaisir malsain.
Oui, mais c'est parce que, tu vois, moi, la distinction que je fais entre trouver l'espèce de stratagème technologique là, pour rentrer dans le cellulaire des vedettes puis aller piocher des informations d'un téléphone de quelques personnes, c'est tordu, mais ça peut être une espèce de drôle de curiosité mal placée. Faire ça pendant 6 ans, là, ça frôle la déviance. Là. Si pendant 6 ans, il s'adonne au loisir qu'il s'est trouvé là, d'aller se promener dans le téléphone des gens puis aller regarder les textos, puis lire les conversations, puis regarder les photos... Là, c'est plus juste de la curiosité, même maladive, là, tu sais. Là, ça commence à être un peu déviant.
Quelqu'un qui nous écrit au 25-226, des fois, c'est juste mettre du piquant dans une vie plate. Ben oui.
Écoute, peut-être. Mais c'est tout cette espèce de mystère-là qui plane au-dessus des intentions du gars qui fait en sorte qu'on va suivre attentivement
cette
histoire.
C'est ça. Et là, est-ce qu'il sera remis en liberté? Si c'est le cas, ben là, ça sera pas aujourd'hui. Il va y avoir enquête caution sûrement soit demain ou en début de semaine prochaine. Et à ce moment-là, ben il y aurait peut-être plusieurs conditions qui pourraient lui être imposées. Est-ce que c'est un individu avec des antécédents? Je suis pas en mesure de vous dire. Je suis pas allé vérifier au palais de justice. Mais c'est certain que si c'est le cas, il restera. Mais le fait qu'il aurait fait plusieurs victimes pourrait inciter un juge à le garder derrière. Mais en même temps, tu sais... C'est quoi le risque? C'est ça aussi que le juge devra prendre en compte au moment de regarder si on le remet en liberté. Puis, il pourrait y avoir l'imposition, par exemple, de conditions comme ne pas pouvoir se servir d'appareils électroniques ou connecté à Internet pour éviter justement qu'il continue à sévir.
Mise à jour sur ce drame familial, triple meurtre. Appelez ça comme vous voulez, là. Puis d'ailleurs, on va en parler de la façon de nommer ces événements-là, parce que j'ai vu sur Internet plein de gens qui disent « Arrêtez d'appeler ça un drame familial, c'est un meurtre. » Là, première chose, là où l'histoire est rendue dans fonction de l'enquête puis des informations policières, là, ce qu'on sait, hors de tout doute, c'est qu'il y a une femme de 42 ans qui s'appelle Daya Khelaf, qui a été retrouvée morte à son domicile avec ses deux enfants, deux garçons de 2 et 4 ans. Et on sait aussi que le père de famille et ex-conjoint, c'est-à-dire même ex-mari de cette dame-là, le monsieur s'appelle Nabil Issad, 46 ans, lui s'est enlevé la vie en sautant du 6e étage de l'hôpital de Joliette. Okay? On sait qu'il y a eu ces deux événements-là. On sait que le monsieur, c'est le père et c'est l'ex-mari. Sauf que même si c'est en apparence un triple meurtre, pour l'instant, on le sait pas. À moins que dans les dernières minutes, les policiers l'aient confirmé. C'est pour ça qu'on fait des mises à jour régulièrement depuis 2 jours. Là. Mm-hmm. C'est parce que ce genre de déclaration-là puis d'annonce-là doit être soutenu par des preuves. Les policiers font leur enquête. Voilà. Donc, c'est sûr que ça a l'apparence d'une espèce de crime passionnel ou d'un triple meurtre. Sauf que là, pour l'instant, on doit s'en tenir à dire que le monsieur, c'est le père, c'est l'ex-conjoint. Il s'est enlevé la vie à l'hôpital de Joliette. Et quand les policiers sont allés cogner à la porte de la résidence de la dame pour annoncer le décès du monsieur, il se passait rien, ça répondait pas. Puis comme il y avait des motifs de crainte pour la sécurité de ces gens-là, ils ont défoncé la porte et c'est là qu'ils ont trouvé le corps de la femme et des deux enfants. On en sait donc un peu plus aujourd'hui sur les personnes. Là. J'ai été en mesure de vous dire c'était quoi leur nom. Ça, c'est des développements qu'il y a eu dans les dernières heures. Il y a des journalistes, évidemment les enquêteurs, mais qui ont parlé aux voisins. Donc, on en connaît un petit peu plus sur l'histoire de ce couple-là. Il semblerait que les policiers s'étaient rendus là, au moins 5 ou 6 fois au domicile des, au cours des 2 dernières années pour des disputes conjugales, c'est selon des voisins. Là. On dit que le père est parti plusieurs fois avec les enfants, puis qu'il y aurait... évidemment, là, c'est les propos d'un voisin. Les deux individus sont originaires d'Algérie. Le monsieur travaillait dans... Non, la dame travaillait dans une institution bancaire. Le monsieur travaillait là, dans les industries. Il semblerait que c'était un couple issu d'un mariage qui aurait été arrangé par les deux familles il y a quelques années. Et peu de temps après qu'ils soient venus au Québec, le mari est venu rejoindre la dame. Elle a demandé le divorce parce que il y aurait eu un accident de travail. Encore là, je parle au conditionnel parce qu'il y a des informations là-dedans qui proviennent de témoignages des voisins, donc c'est à confirmer, mais il y aurait eu un accident de travail. Depuis ce temps-là, la dame soupçonnait qu'il y avait peut-être des problèmes de santé mentale. Elle trouvait que les comportements de son mari avaient changé. Elle demande le divorce. Autre chose extrêmement importante là-dedans, le tribunal... La semaine dernière, avait estimé que la dame avait des raisons de crainte pour sa sécurité.
Ouais.
Et donc, ils avaient émis une ordonnance de non-contact. Là. Je ne sais pas si c'est le nom exact, mais donc, ils avaient ordonné au monsieur de ne pas s'approcher de la résidence, de ne pas s'approcher
distance,
de la madame.
Souvent, il y a une distance qui est prescrite par le juge dans des situations comme celle-là. Mais ça fait partie de situations que l'on voit fréquemment. Puis bon, il y a des gens qui vont nous dire « Ah oh, ouais, OK, peut-être c'est à cause de leur origine et tout le kit. » Non. Des histoires comme celle-là, là, je peux vous dire, il y en a pas jeté, là. Puis c'est pas nécessairement des gens qui viennent d'ailleurs. Là. Il va y avoir des Bouchard, des Tremblay, des Némites.
Oui, oui, oui,
il y en a plein là-dedans. Là.
Mais une des questions que je me pose là-dedans, c'est... Puis Jonathan, tu couvres souvent toutes sortes d'histoires au palais de justice puis des histoires de violence conjugale. T'en as vu une puis une autre. L'ordre de la cour, là, à part de donner une poignée légale à un individu qui le respecterait pas pour dire « Regarde, t'as pas respecté l'ordre de la cour, donc on t'envoie en dedans. » Ou bon. À part ça... Ça vient pas avec une protection quelconque.
Non,
donc,
non.
Sincèrement, l'utilité de ça, là, est mitigée, à mot à dit, là.
Ça donne une poignée pour la personne qui craint pour sa vie ou pour la vie d'autrui pour justifier aux policiers d'intervenir plus rapidement. Je te dirais que c'est un peu ce que ça fait.
Oui. Mais puis sans faire
là,
de conclusion hâtive dans ce dossier-là, il reste que... Moi, je me questionne sur le fait que tu dises parfait, ordonnance de non-contact, interdit d'entrer en contact avec une personne. Si la personne elle décide de rentrer en contact avec, dans le fond, là, puis qu'elle décide de passer à l'acte.
Et de surprendre.
Ben, c'est ça. Ça a quoi comme portée? Finalement, pas grand-chose, là. Pas grand-chose. Puis l'autre chose, je vous l'ai dit tantôt.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut mettre un policier ou un agent de sécurité à la porte de chacune de ces familles-là? Non, je te dirais, il y en a bien trop.
Ouais, mais t'as raison en même temps. Puis quand on émet une ordonnance de non-contact, ben c'est plus simple, disons. Puis c'est plus, disons que tu peux en émettre plus facilement là, que d'attendre d'avoir des preuves de la violence conjugale pour vraiment, après ça, déménager quelqu'un ou bien mettre un violent en dedans. T'sais, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué.
Il y a quelqu'un qui nous écrit, il dit, le problème, c'est que ces personnes ne voient que leur rage, les lois et les forces de l'ordre, ils s'en foutent vivement un bracelet. Donc, il y a des gens qui disent, pour des situations, pour des individus comme ceux-là, à qui on leur impose un interdit de contact, faudrait y aller avec un bracelet. Mais encore là, ils n'ont pas commis de crime. Souvent, les bracelets vont être utilisés pour quelqu'un qui a commis déjà un crime, pour le tracer, pour s'assurer qu'il ne récidive pas. Là, est-ce que c'est une mesure qui, de façon préventive, on va se mettre à imposer, il va y avoir bien du monde qui vont avoir des bracelets, là.
Ça
va devenir difficile à suivre. Quoique maintenant, tu me diras qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont être capables de dire « OK, il est rendu
à telle distance, envoie une alerte, puis le policier le plus proche va voir. »
Ouais, mais là, en même temps, tu vas-tu mettre, par exemple, aux enfants un bracelet comme celui-là? Parce que quand ils s'en vont à l'école, là, il va falloir que tu sois capable de géolocaliser l'école. Il ne pourra pas s'approcher de l'école.
Ça
devient compliqué à gérer, là. Excuse-moi, là.
Ouais, t'as raison. Il y a une auditrice qui dit « Cette ordonnance sert à rien. Ça fait juste mettre ton ex l'enrager encore plus. » J'essaie d'épargner les gros mots, mais c'est une situation des fois qui te donne envie d'utiliser des gros mots, là. Mais d'une autre façon, je veux dire, l'ordonnance de non-contact vient aussi avec une personne qui porte plainte pour de la violence conjugale, là. C'est-à-dire que les gens qui sont violents dans leur couple. D'après moi, ça prend pas grand-chose pour les enrager. Puis le but, c'est justement de les empêcher de nuire. Là s'il faut en plus se dire, mais d'un coup, qu'ils seraient fâchés, là, on n'est pas sorti du bois.
C'est ça.
Puis l'autre affaire, je veux absolument qu'on en parle, parce que là, j'ai vu ça sur Internet sortir. Là, j'ai déjà utilisé le terme drame familial, drame crime passionnel, ces choses-là. Ouais. Et à partir d'aujourd'hui, je vais appeler les choses comme elles sont. Un homme un meurtrier, un homme qui a tué sa femme et ses enfants. Bon, premièrement, dans cette situation-là, on ne peut pas encore conclure ça officiellement. Les policiers ne l'ont pas encore déterminé précisément, puis pas suffisamment pour sortir médiatiquement. Mais dans n'importe quelle autre situation, là, j'élargis à toutes les fois où ce genre de drame-là se sont produits. Y a-t-il vraiment une grosse différence entre dire drame familial ou meurtre ou l'homme qui a tué la femme? C'est-tu si important que ça comme débat? Il y a des gens, puis je suis pas dans le jugement, il y a des gens pour qui ça a l'air d'être très, très important la façon dont on nomme ce genre d'événement-là. Puis c'est pour ça que je me pose la question aujourd'hui, puisque ma première réaction, c'est de me dire, ben là, on va-tu vraiment s'emballer dans un débat de sémantique, alors qu'on pourrait aussi réfléchir à comment on fait pour mieux protéger les gens, puis comment on fait pour mettre les violents hors d'état de nuire et compagnie. Là,
crime passionnel, je te dirais, j'ai un peu plus de misère. Parce que moi... Pour moi, la passion, c'est pas ça pantoute. Tu comprends? Aller tuer quelqu'un...
Ouais, ça a du sens.
Normalement, t'aimes? Non. Pour moi, c'est pas ça. Drame familial, moi, je suis prêt à garder encore cette appellation-là. Parce que, oui, on parle de meurtre, oui, on parle de suicide, mais en bout de ligne, ça reste aussi un drame familial parce que il y a toutes les personnes autour qui vivent ça de façon dramatique. Fait que c'est encore un drame familial et... On parle ici d'une cellule familiale, même si elle était éclatée, on le comprendra. On parle de d'une situation familiale, et oui, ça reste un drame. Donc, j'ai pas de problème à garder ça, mais oui, parler au travers de meurtre et le souligner quand on saura exactement comment ça s'est passé dans l'ordre et que les enquêteurs auront fait le point, OK, j'ai pas de problème avec ça.
Bon, ben, comme je m'y attendais, finalement, on n'a pas eu le temps de passer à travers tous nos sujets. Petite note là, pour les auditeurs, là, petit secret de coulisses. On réussit jamais à passer à travers tous nos sujets. Ça fait qu'on a plein d'autres pour vous autres après la pause.